Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinne L, un programme Maurice Clément Fèvre. Dernièrement, nous avons laissé notre jeune apprenti bien désemparé seul, avec son oncle Gennaro Bellelli à Florence. Tous deux attendent le retour de Laure Bellelli au chevet de son père malade. Reprenons notre palette et posons immédiatement notre chevalet en terre italienne. Bienvenue chez Hilaire Germain Edgar Degas. Le 31 août 1858, Hilaire Degas décède à Naples. Achille, oncle de Degas, lui écrit le 14 septembre.
À peine il faisait jour, quand tout à coup notre pauvre père cessa de vivre.
Sa tante, Laure, revient en novembre avec ses deux filles, Giovanna et Giulia, au domicile conjugal. Edgar prolonge son séjour, malgré les maintes demandes de retour en France de son père Auguste. Mais ce dernier, conscient des progrès de son fils, le complimente pour ses œuvres reçues en novembre, notamment Dante et Virgile.
Tu as fait un immense pas dans l'art. Ton dessin est fort, le ton de ta couleur est juste. Tu es débarrassé de ce flasque et trivial dessin flandrinien, lamossien, et de cette couleur terne grise. Tu n'as plus à te tourmenter, mon cher Edgar. Tu es dans une excellente voie.
Ailleurs, il écrit.
Travaille tranquillement, reste maintenant dans cette voie, te dis-je, et sois bien certain que tu parviendras à faire de grandes choses. Tu as une belle destinée devant toi, ne te décourage pas, ne tracasse pas ton esprit.
Puisque sa tante préférée est de retour, Degas en profite pour effectuer les premières études du tableau Portrait de famille ou La famille Bellelli. Études de main, portrait, attitude, figure en pied, Delors et ses filles sont brossées selon différents procédés. Mine de plomb, peinture à l'essence, à l'huile, pastel. Toutes ces esquisses lui serviront pour achever ce grand tableau dans son atelier parisien. Nous en retrouvons certaines au cabinet des dessins du musée du Louvre-Orsay. Le 30 novembre, de Venise, le peintre Gustave Moreau gagne Florence. Auguste Degas apprend la nouvelle par Königswarter et cela ne lui plaît pas du tout. Il écrit aussitôt à son fils Edgar.
La présence de M. Moreau à Florence va te retenir encore.
Puis, plus loin, au sujet du tableau de la famille Bellelli.
Si tu as commencé le portrait de ta tante à l'huile, tu verras que tu barboteras en voulant aller vite.
Dans une autre lettre du 25 février 59, son père lui annonce que son frère Achille est parti à Brest, pour ensuite les côtes africaines, et que la sœur de son ami, Paul Valpinson, s'est mariée.
Un retour en France tant attendu.
Il revient à Paris fin mars 59, sur l'insistance de son père. Il s'installe chez lui quelque temps aux 4 rue Mondovi, en attendant de trouver un atelier. Un moral au plus bas, le retour à la grisaille parisienne après le soleil d'Italie. Les amis laissés, bref, la réadaptation est douloureuse pour le peintre, comme en témoigne son ami le banquier Königswarter. Dans une lettre du 26 avril 59, Degas écrit
« Mon cher Moreau, me voici de retour dans la patrie. Je vous assure que le changement est grand. Papa est toujours le même, mais le reste de la famille est méconnaissable. René est un jeune homme, il est très grand pour son âge. Mes deux sœurs m'en imposent et je me trouve terriblement diminué. »
Un peu plus loin, il commande son retour et ses arrêts à Gênes, au palais Brignol, pour les Beaux Van Dyck, à Turin, pour les Véronèse et Velasquez. Puis il donne des nouvelles.
« J'ai vu déjà plusieurs fois Königswarter, qui vous attend avec une impatience croissante. Lévy va bien, je n'ai pu le voir qu'une fois. Il fait des plafonds à l'hôtel Purbado. Fromentin a presque les honneurs de l'exposition, à mon avis. Je vais écrire à Tourny. Félicitez-le sur son exposition. Je vous embrasse. Mille choses à Delaunay, Bonal. La motte est plus idiot que jamais. »
Selon Degas, son ancien maître n'a pas évolué, alors que lui progresse. Dans la grande famille Degas, les nouvelles circulent vite, même en 59. Son oncle Achille de Naples lui envoie le 14 mai les lignes suivantes.
Il paraît que tu te retrempes dans la vie parisienne et que depuis ton arrivée, tu fais le badaud. Comme la paresse n'est pas de ton goût, je suis persuadé que tu en auras eu bientôt assez de la flânerie et que tu te seras mis déjà au travail.
La fin de l'année s'annonce plus radieuse, car il retrouve à nouveau Gustave Moreau, qui est rentré d'Italie en septembre. Il emménage aussi dans son nouvel atelier du 13 rue de Laval. Mais les contacts avec Moreau vont peu à peu s'espacer. De même que les relations avec Léon Bonnat, au bout de quelques années. En 1863, il brossera le portrait de Bonnat dans deux tableaux. Il en gardera un, et offrira l'autre à son ami.
Nouvelle escapade italienne.
Le 21 mars 1860, Degas repart en Italie à Naples, chez sa tante Fanny, marquise de Sicéra, la duchesse de Montejasi. Il y rejoint ses deux sœurs Thérèse et Marguerite, déjà sur place. Il en profite pour rendre visite à sa tante Bellelli à Florence et croque Gennaro, son oncle, étude qui lui servira ultérieurement pour son futur tableau tant attendu. En effet, le 7 juillet, Achille du Gabon envoie à son père une missile dans laquelle il demande
« La toile d'Edgar avance-t-elle? Est-ce qu'il ne la destine pas au prochain salon ?» Degas se met au travail.
De retour en France, Degas s'inscrit en qualité de copiste au Louvre le 3 septembre 61, âgé de 26 ans, au 4 rue Mondovi. Il a choisi comme maître fictif Émile Lévy, son ami, Delacroix, Poussin, Holbein, peintre allemand. Les peintres italiens de la Renaissance sont ses sujets favoris. Par ailleurs, durant ses prochaines années, outre la peinture d'histoire, Edgar va s'intéresser au monde hippique. En effet, suite aux visites régulières en Normandie, dans la propriété de son ami Paul Valpinson au Ménil-Hubert, il découvre les chevaux du Haras du Pin et le champ de course d'Argentan. Il va alors brosser ses premières esquisses de pur sang et côtoyer les hippodromes, nous léguant ainsi toute une série sur le milieu hippique jusqu'en 1890. Parallèlement à la grande composition de la famille Bellelli, il commence des œuvres historiques sous l'influence certainement de Gustave Moreau. Il s'inspire des reliefs assyriens, perses, acquis par le musée du Louvre, mais aussi de la Grèce antique. Ainsi, en 1861, il nous laisse Sémiramis construisant en Babylone, petite fille spartiate provoquant des garçons, la fille de Jephthé, scène de guerre au Moyen-Âge. Ces tableaux font référence à l'Antiquité, à la Bible, au Moyen-Âge. Les dessins et études préparatoires de nus, de draperies, de compositions sont sauvegardés au cabinet des dessins du musée du Louvre-Orsay. Degas avait bien compris que le dessin était primordial. Plus tard, il déclarera à l'écrivain Paul Valéry
« Le dessin n'est pas la forme, il est la manière de voir la forme. »
C'est-à-dire de libérer la forme afin qu'elle devienne expressive. Revenons au voyage en Italie, découvrir les tableaux d'Edgar auprès de sa famille paternelle.
Du côté du musée.
Tout d'abord, il immortalise son grand-père en 1857, dans Hilaire Degas, au musée d'Orsay. L'air sévère, le regard fixe, assis dans un coin du canapé, les jambes croisées, sa main droite tient sa canne posée sur ses cuisses. Habillé d'une chemise blanche au col remonté et d'un nœud papillon noir, d'un gilet blanc et d'une veste marron, il dégage une allure altière, distinguée, que des rayons lumineux éclairent dans sa villa de San Rocco di Caponemonte. L'année précédente, il fait le portrait de sa jeune cousine, Giovanna Bellelli, musée d'Orsay. Les cheveux tirés en arrière, sains, d'un serre-tête noir, ses grands yeux bleus fixent le spectateur. La lumière éclaire son visage poupin. Nous la retrouverons dans la grande composition de la famille Bellelli plus tard. Son travail de copiste l'a mené à reproduire vers 58-59 une œuvre attribuée en premier lieu à Pontormo, peintre florentin du XVIe siècle, puis à Léonard de Vinci. Portrait de jeune femme se trouve au Musée des Beaux-Arts du Canada à Ottawa. Le tableau, tout en jeu d'ombre et de lumière, traduit l'incessante quête de Degas pour les maîtres anciens. Degas n'est pas un grand paysagiste et ne laissa que peu de scènes de plein air. Néanmoins, Lors de son séjour dans la péninsule italienne, il s'adonne à une aquarelle titrée « Vue de Naples », datée de 56-57, Bibliothèque nationale de France à Paris. Cette représentation de la cité est tout en nuances d'ocre jaune de terre de Sienne, au bord de la mer Tyrrhénienne, non loin du Vésuve. Le panorama est croqué en une vue plongeante sur la baie. Au premier plan se dressent les hauts murs d'une communauté religieuse sans doute, juste percés de rares ouvertures, devant un dôme coloré de tuiles luisantes. Puis, les bateaux, loin, sont tout juste esquissés le long de l'anse. Un ciel, le lavis gris-bleu, occupe la moitié du tableau. Quant aux scènes historiques, nous pouvons admirer au musée d'Orsay Sémiramis, construit en Babylone. La toile représente la reine d'Assyrie, créatrice de cette ville de Mésopotamie, au bord de l'Euphrate. Elle est suivie de son cortège et regarde au bord du fleuve la construction de Babylone. Sur la droite du tableau se tient un cheval tirant un char. Degas a certainement effectué des recherches historiques pour la coiffure de Sémiramis et le char. Cette œuvre est restée dans l'atelier du peintre jusqu'à son décès. La galerie Georges Petit la mettra en vente en mai 1918, lors de la première liquidation de l'atelier Degas. Le musée du Luxembourg en fera l'acquisition, c'est pourquoi elle se trouve de nos jours au musée d'Orsay. En 2015, elle fut exposée à Giverny à l'occasion de la manifestation « Degas, un peintre impressionniste ». Scène de guerre au Moyen-Âge est une peinture à l'essence sur papier marouflée sur toile. C'est le dernier tableau historique d'Edgar. Dans une campagne désertique et ravagée par le feu, nous assistons à une scène de violence sur des femmes par trois cavaliers à cheval. L'un d'eux est retourné, pointant son arc sur un groupe de filles dénudées, gémissantes, se tordant de douleur. D'autres sont étendues à terre, mortes. Le troisième cavalier emporte un corps entièrement nu sur son cheval. Cette toile traduirait la prise de la Nouvelle-Orléans par les nordistes lors de la guerre de sécession de 1861-65.
Une évolution capitale et une amitié inattendue.
Félix Braquemont, graveur et futur fondateur de la Société des Aquafortistes le 31 mai 62, fait découvrir à Degas les estampes japonaises du Tamaro. D'ailleurs, la Porte Chinoise, magasin situé rue de Rivoli, ouvert en 62, est le lieu de rendez-vous des amoureux de ces gravures, tels Manet, Tissot, les frères Goncourt. C'est au Louvre, cette même année, qu'Edgar, copiste sur cuivre de l'infante Marie-Marguerite de Velasquez, fait la connaissance d'Édouard Manet. Ce dernier s'écrie
« Eh bien, jeune homme, vous n'avez pas peur. Je n'oserais jamais graver ainsi sans dessin préalable. »
De 2 ans son aîné, issu de la grande bourgeoisie comme lui, Manet copie aussi Velasquez, Tintoret, Titien, Rembrandt. Leur amitié sera immuable et orageuse, car dotés tous deux d'un fort caractère. Degas a la parole acerbe, Manet un tempérament impétueux. Il a la plaisanterie facile, qu'Edgar n'apprécie pas forcément, surtout quand il en est l'objet. Les propos sur sa vie privée notamment, sur son manque d'attirance pour les femmes, ne sont pas du tout appréciés. Pour anecdote, Manet et les siens, ayant questionné sa bonne, celle-ci leur aurait répondu « Monsieur, c'est pas un homme. Je suis entrée dans sa chambre, il changeait de chemise, il m'a dit. »«
Allez-vous-en, malheureuse !»
Quand Degas, avant de cette histoire, il se brouille quelque temps avec Manet. Il est vrai que l'artiste est très discret sur sa vie amoureuse, peu de notes. Si ce n'est qu'il aurait été conduit en 56 par une jeune fille. En 59, il dévoila à sa tante, Laure Bellili, des projets de mariage, mais sans suite. Le 18 septembre 62, Jeanne Tissot, en voyage à Venise, lui demande des nouvelles de son tableau Sémiramis, puis
« Et Pauline, que devient-elle? À l'heure qu'il est, où en êtes-vous? Cette ardeur entretenue ne se dépense-t-elle que sur Sémiramis? Je ne peux supposer qu'à mon retour, votre virginité à son sujet soit intacte. Vous me direz tout cela. »
Manet avouera insidieusement à Berthe Morisot en 69.
« Il n'est pas capable d'aimer une femme, même de lui dire, ni de rien faire. »
Sur cette vie amoureuse bien opaque, quittons Edgar Degas, promis à une plus grande aventure personnelle et collective. Vous la découvrirez prochainement sur cette même antenne dans Voyage en Terre de Couleurs.